Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Comme chaque lundi, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous un enseignement à la fois pour recharger vos batteries, pour grandir, vous inspirer et avoir une vie pleinement épanouie. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à la découverte de soi.
Alors que nous sommes debout, j'aimerais qu'on lise le texte de base sur lequel je m'appuyais ce matin pour parler à l'Église. Luc 19, versets 11 à 26. Je fais la lecture. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Je m'arrêtais là avant de poursuivre la lecture en vous faisant remarquer que malgré le fait qu'on ait envoyé une ambassade pour empêcher son intronisation, lorsqu'il revient, il revient investi d'une autorité royale. Je vais ouvrir une parenthèse en pleine lecture pour dire à quelqu'un, quel que soit ce qui parle contre toi, ce que Dieu a prévu pour toi arrivera. La Bible dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et lui dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce matin, pour parler à l'Église, je veux m'appuyer sur le thème « Influencer son environnement ». Nous devons nous mettre d'accord sur les thèmes, les termes qui constituent le titre de mon intervention. Le mot « influencer ». A pour synonyme agir, déteindre sur, entraîner, influer, marquer, peser sur, infléchir et mener. Lorsqu'on parle d'influencer, c'est exercer une influence sur quelqu'un ou quelque chose. J'ai aimé le synonyme d'éteindre sur. Lorsqu'on parle d'environnement, vous êtes conscient qu'on fait référence à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui constituent l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. L'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constituant le cadre de vie d'un individu. Un synonyme pour le mot environnement serait le mot atmosphère, ambiance, climat. Vous avez certainement réalisé que beaucoup de personnes sont influencées par leur environnement. C'est pour ça que quand des gens grandissent dans un certain cadre, ce cadre, dans une certaine mesure, les forme ou les déforme. C'est à cause de ça que beaucoup de gens font le choix parfois de se déplacer, de changer d'environnement, de changer de cadre, parce qu'ils considèrent que l'atmosphère, le climat, l'ambiance dans lesquelles ils ont vécu jusqu'alors ont posé des limitations à leur développement. À cause de ça, certains changent de quartier, certains changent de ville, certains changent même de pays. C'est à cause de ça que parfois on change de fréquentation, parce qu'on considère que certaines fréquentations nous maintiennent dans le statu quo ou nous tirent vers le bas. Il y en a d'autres, effectivement, qui favorisent la croissance. Il y a des gens, quand vous les fréquentez, qui vous bonifient. Voilà pourquoi quelqu'un a dit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Ce que tu fréquentes, dans une certaine mesure, influe sur ta façon de voir la vie. Vous savez, c'est souvent à cause de cet environnement que des gens sont limités. Quelqu'un qui naît dans un environnement très modeste, parfois a des difficultés à envisager ou à visualiser le succès ou la réussite au-delà des limitations de son environnement. C'est pour ça qu'il y a très peu d'échanges dans les classes. Il y a très peu de personnes qui passent de la pauvreté à la richesse ou de la richesse à la pauvreté. Très souvent, la richesse et la pauvreté deviennent héréditaires. Oui, très souvent, les gens se retrouvent à vivre exactement ce que leur famille a toujours vécu. C'est pour ça que de père en fils ou de mère en fille, on pense d'une certaine manière, on voit la vie d'une certaine manière. Et quand bien même nous avons des aspirations différentes, vous devez réaliser que les gènes ne sont pas neutres. Quelqu'un qui est né dans un certain environnement finit par vivre exactement comme cet environnement. Mais ce matin, je veux émettre un autre son de cloche. Je veux indiquer que je crois avec fermeté qu'il est possible de déteindre sur son environnement. Il est possible d'avoir de l'influence sur son environnement. Je crois qu'il est possible donc de ne pas devenir ce qu'on fréquente, mais de faire changer ce qu'on fréquente en les emmenant à devenir comme nous. En fait, ce que je crois, c'est que même si tu es né pauvre, si dans ton intérieur tu es riche, ta richesse intérieure peut influencer la pauvreté de l'environnement dans lequel tu as toujours évolué. Je crois que tu n'es pas obligé d'être dénaturé ou de devenir ce que tu n'es pas à cause de l'environnement dans lequel tu évolues. Ce que je crois avec fermeté, c'est que l'apôtre Paul a eu raison lorsqu'il a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». En d'autres termes, Romains 12, en d'autres termes, n'ayez pas la même forme que l'environnement ou le siècle dans lequel vous évoluez. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il est possible à un individu de ne pas avoir la même forme que l'environnement dans lequel il évolue, mais d'avoir une forme supérieure. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ton environnement n'est pas une fatalité. Si tu as un voisin qui ne te parle pas, parle-toi à toi-même. Peut-être ça va encourager ce voisin à accepter de te parler. Mais parle-toi, dis, mon environnement n'est pas une fatalité. Je ne suis pas obligé de ressembler à ma famille. Je ne suis pas obligé de ressembler à mon quartier. Je ne suis pas obligé de ressembler à ma ville. Je ne suis pas obligé de ressembler à mon pays. Que quelqu'un dise haut et fort, mon environnement n'est pas une fatalité. Ce que je crois, c'est qu'on peut exercer de l'influence sur son environnement. On peut déteindre sur son environnement. On peut influer sur son environnement. Vous n'êtes pas obligé de penser comme des Gabonais. Si la pensée gabonaise est limitée, la pensée qui doit être la tienne ne doit pas être limitée. J'explique. C'est monnaie courante d'entendre dans notre nation, on va encore faire. Ça, c'est la pensée gabonaise, mais nous refusons de penser comme ça parce que nous considérons que notre environnement n'est pas obligé de déteindre sur notre façon de penser. La xénophobie vient du diable. La xénophobie procède tout droit du profond de l'enfer. Et ce qui m'a profondément marqué, c'est qu'on peut être xénophobe même avec quelqu'un qui a la même couleur de peau que nous. En fait, j'ai découvert qu'on peut même être xénophobe dans sa propre famille. En fait, la pensée de la xénophobie c'est qu'on a, on a peur d'autrui. Autrui représente une menace. Autrui devient la raison pour laquelle nous souffrons ou nous sommes malheureux. Et j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que ceux qui aient des peints dans ces actes xénophobes, c'est que ces individus qui sont autochtones, qui sont nationaux, se sentent en danger par les étrangers, mis en danger par les étrangers, et considèrent que si eux, ils ne prospèrent pas, c'est parce que les étrangers prospèrent. Nous ne nous considérons pas comme xénophobes, mais je vois cette pensée dans nos familles. Quelqu'un qui considère que parce que tes enfants réussissent, ses enfants connaissent l'échec. Et donc, on va chez un féticheur ou chez un tradit praticien pour prononcer des paroles de malédiction sur ses propres neveux. Okay. Considère que si toi, tu te maries alors que tu es la troisième ou la quatrième ou la cinquième, c'est ce qui justifie que la première ou le premier ne se marie pas. Et quelle sottise! Quelle sottise! Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ne pense pas comme ça. Oui, ne pense pas comme ça. En fait, je veux dire à quelqu'un ce matin que le succès de l'autre n'est pas un frein à ton succès. La réussite de l'autre n'est pas un frein à ta réussite. En fait, pour réussir, tu n'es pas obligé de faire échouer les autres. Pour monter, tu n'es pas obligé de faire descendre quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'avancer en retenant quelqu'un captif ou prisonnier. Tu peux évoluer avec quelqu'un d'autre. En fait, tu n'es dans une course avec personne. En Genèse 1, le verset 26, Dieu parle. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, l'être humain a été créé pour le succès, pour la domination, pas pour l'échec. Pas pour l'échec. Et Dieu dit qu'il domine sur quoi? Sur les animaux, sur l'environnement. Mais pas sur l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer sur l'homme. En fait, il n'y a personne qui a été créé pour être esclave de quelqu'un d'autre. Et quand on parle de domination très souvent sur les êtres humains, la Bible dit, si tu vois un homme dominer sur un autre homme, c'est toujours pour son malheur. Ça veut dire qu'en réalité, si tu es esclave de quelqu'un, tu seras toujours malheureux. Ton bonheur, ou la clé de ton bonheur, ne doit jamais être dans la poche de quelqu'un d'autre. Okay? Ton succès ne doit jamais être fonction d'autrui. Lorsque je vous parle d'influencer votre environnement, je ne parle pas de dominer sur les gens qui vous entourent. Je ne vous parle pas d'en faire des esclaves. Je ne vous parle pas de les piétiner. Mais ce que je dis, c'est que vous devez déteindre sur les gens que vous fréquentez. Vous devez avoir de l'influence, et de l'influence positive, sur l'environnement dans lequel vous êtes. Nous ne sommes pas en guerre contre des individus. L'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les esprits méchants, les principautés dans les lieux célestes. Ça veut dire que si nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre des choses invisibles. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Nous sommes en guerre contre des esprits, nous sommes en guerre contre des pensées, nous sommes en guerre contre une logique diabolique. Je veux vous faire remarquer, Romains 14, 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu es un fils ou une fille du royaume, et que tu dois représenter le royaume auquel tu appartiens, et que tu dois influencer ce monde-ci à cause du royaume céleste, il dit, l'influence que tu dois avoir n'est pas d'abord une influence sur ce qui est visible, donc le manger et le boire. C'est d'abord une influence au niveau des valeurs. Tu dois transpirer les valeurs du royaume de Dieu. Les valeurs du royaume auquel tu appartiens. Si dans ton environnement, il y a de l'injustice, tu dois transpirer la justice. Si dans ton environnement il n'y a pas de paix, à cause de ta présence, la paix du royaume de Dieu doit se manifester. Si dans ton environnement il n'y a pas de joie, à cause de ta présence, la joie qui vient de Dieu doit être manifeste. Je veux revenir sur le texte que j'ai lu avec vous ce matin. Et vous connaissez l'histoire. Jésus est de passage dans Jéricho. En fait, il traverse Jéricho et il est en route vers Jérusalem. Alors qu'il est de passage à Jéricho, la Bible dit qu'il va faire une rencontre, celle de Zachée. Cette rencontre va radicalement changer la vie de Zachée. Au point que Zachée va faire amende honorable pour toutes les mauvaises actions qu'il avait posées. Zachée va être sauvé. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. La première chose qui m'a interpellé alors qu'on parle de ce texte, c'est que Jésus a pu traverser Jéricho parce que Josué avait pris Jéricho. Pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, vous devez vous rappeler que Jéricho était une ville imprenable. Vous savez que Josué et Jésus sont parents d'ailleurs, la racine de leur mot hébraïque. Jésus, Josué, sauveur. Josué a réussi à faire tomber les murs de Jéricho. Ça parmi plusieurs siècles plus tard que Jésus traverse Jéricho. Ça veut dire que ce que tu ne vins pas, ce que tu ne prends pas, ta descendance ne pourra pas le traverser. Le combat qui est le tien aujourd'hui est pour beaucoup plus que toi. Il faut que certaines choses s'arrêtent avec toi. Il faut que certaines choses s'arrêtent avec toi. Parce que si tu ne prends pas le dessus sur certaines choses, elles vont prendre de l'ampleur à chaque génération. Vous avez dû vous rendre compte que le serpent de Genèse est devenu le dragon d'Apocalypse. On l'appelle le serpent ancien. Parce que ce que tu ne tues pas à l'état embryonnaire va grandir et peut devenir un monstre pour les générations futures. Vous êtes-vous rendu compte qu'il y a des choses dans notre pays qui aujourd'hui ont pris de l'ampleur? Parce que quand ça commençait, personne ne s'est tenu debout pour dire non, ça ne va pas plus loin. Et je veux dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce matin, qu'il y a des choses auxquelles tu dois dire non dans ta famille. Ça là, ça ne va pas plus loin. Il y a des choses auxquelles tu dois dire non dans ton environnement. Tu dois dire ça, ça ne va pas plus loin. D'ailleurs, je pense que c'est bien ça le rôle du sel. Le sel doit empêcher la progression de la pourriture. Le sel doit empêcher que quelque chose ne pourrisse. Quand le sel arrive là, quand le sel rentre en scène, la pourriture s'arrête. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est ce que tu es. Tu es le sel de la terre. Il faut que ta présence dans ton environnement marque la fin, la cessation de la pourriture. Dis à ton voisin, tu es le sel de la terre. C'est peut-être trop grand. Dis-lui, tu es le sel de ta famille. Oui, tu es le sel de ton lieu de travail. Tu es le sel de ton quartier. Tu es le sel de ton environnement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu dois avoir de l'influence autour de toi. Écoute, il faut que tu prennes le dessus. Il faut que tu aies la victoire sur certains démons pour que tes enfants et tes petits-enfants n'aient pas besoin de les affronter. My God, certains d'entre nous, nous avons eu un mauvais départ. Mais nos enfants doivent avoir un bon départ. Jésus traverse Jéricho parce que Josué a fait tomber les murailles de Jéricho. Quelles sont les murailles que tu dois faire tomber pour que les générations futures puissent traverser des villes sans problème? Aujourd'hui, il y a des accords entre certains pays de l'Afrique centrale qui permettent la libre circulation. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années est devenu possible parce que quelqu'un, des hommes se sont mis en accord pour faire tomber des murs. Je prie que Dieu te donne des gens avec lesquels tu peux te mettre en accord pour faire tomber des murs. Que dans ta famille, Dieu suscite des hommes et des femmes de la même espèce que toi. Dans ton lieu de travail, que Dieu suscite des hommes et des femmes de la même espèce que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Il y a des murs qui doivent tomber. L'autre chose qui me paraît important de faire remarquer alors que nous parlons de ce texte de Luc 19, c'est que pour aller à Jérusalem, il faut traverser Jéricho. Oui. Pour arriver à ce lieu où on intronise, ou ce lieu où on va dire Hosanna, Hosanna, ce lieu où on va être célébré, il faut d'abord passer par ce lieu d'épreuve, ce lieu de combat. Et je veux vous faire remarquer que beaucoup de gens n'influent pas sur leur environnement parce qu'ils ont peur de l'opposition. Ils ont peur de l'adversité, ils ont peur du « quand dira-t-on ?» Ils ont peur que les gens se lèvent. Mais j'ai découvert que personne ne fait rien de grand sans opposition. Il n'y a rien de grand qui se fasse sur la terre sans adversité. Quand les choses sont trop faciles, la victoire est fade. Mais quand le combat a été rude, quand l'épreuve a été difficile, quand l'opposition a été farouche, le goût de la victoire est particulier. J'aimerais que tu encourages quelqu'un qui traverse une épreuve à côté de toi. Dis-lui, il faut que tu traverses Jéricho pour arriver à Jérusalem. En fait, je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin, oui, on va te couronner. Mais il n'y a pas de couronne sans combat. Oui, on va te célébrer. Mais il n'y a pas de célébration sans épreuve. Oui, on te remettra le diplôme. Mais c'est parce que tu auras passé l'examen. Donc quelqu'un doit entendre ces mots d'encouragement ce matin. Tiens bon. Au milieu de l'épreuve, tiens bon. Au milieu de la difficulté, tiens bon.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ce podcast pour en écouter davantage. Restons connectés également sur les réseaux sociaux et le site internet michelambourouet.com. À lundi prochain, ici même, pour encore plus d'inspiration. Passez une excellente journée sous la bénédiction de Dieu. À très bientôt.